Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
J'ai rencontré les auteurs de la Bibliomule de Cordoue dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire à Nantes, au festival Atlantide, le vendredi 3 mars 2023. C'est Bernard Martin qui a posé les questions aux auteurs devant une salle complète de lycéens et de professeurs passionnés. Voici la présentation qu'en fait les éditions d'Argot sur la page web consacrée à cette œuvre. Khalifa al-Andalus, Espagne, année 976. Voilà près de 60 ans que le califat est placé sous le signe de la paix, de la culture et de la science. Le calife Abd el-Rahman III et son fils al-Hakam II ont fait de Cordoue la capitale occidentale du savoir. Mais al-Hakam II meurt jeune et son fils n'a que 10 ans. L'un de ses vizirs, Amir, saisit l'occasion qui lui est donnée de prendre le pouvoir. Il n'a aucune légitimité, mais il a des alliés. Parmi eux, les religieux radicaux humiliés par le règne de deux califes épris de culture grecque, indienne ou perse, de philosophie et de mathématiques. Le prix de leur soutien est élevé. Ils veulent voir brûler les 400 000 livres de la bibliothèque de Cordoue. La soif de pouvoir d'Amir n'ayant pas de limite, il y consent. La veille du plus grand autodafé du monde, Tariq, eunuque grassouillet en charge de la bibliothèque, réunit dans l'urgence autant de livres qu'il le peut, les charge sur le dos d'une mule qui passait par là et s'enfuit par les collines au nord de Cordoue, dans l'espoir de sauver ce qui peut l'être du savoir universel. Rejoint par Loubna, une jeune copiste noire, et par Marwan, son ancien apprenti devenu voleur, il entreprend la plus folle des aventures. Traverser presque toute l'Espagne avec une bibliomule surchargée, poursuivie par des mercenaires berbères. Cette fable historique savoureuse, écrite par Wilfried Lupano et servie par le très joyeux de Léonard Cheminot, fait écho au conflit, toujours d'actualité, entre la soif de pouvoir et la liberté qu'incarne le savoir. Première partie de la rencontre avec les auteurs de la Bibliomule de Cordoue.
C'est un lieu très très foisonnant qui est ouvert tout au long de l'année. Et donc c'est une, pour, comme je sais que vous ne connaissez pas du tout le lieu et que pour certains c'est une grande première de venir ici, vous raconter un tout petit peu l'histoire de ce lieu puisque c'est l'ancienne biscuiterie qui appartenait à la famille Lefebvre-Util. Et donc ici se fabriquaient autrefois les petits beurlus notamment. Donc tout précisément dans la cour qui est l'espace juste derrière vous, il y a là aujourd'hui la grande librairie. Et donc ça a été pendant un siècle vraiment un lieu de fabrication de biscuits. Et aujourd'hui on fabrique d'autres choses, d'autres histoires, beaucoup liées à l'imaginaire avec une proposition artistique tout au long de l'année. Et donc on fête la 11e année du festival. Donc le festival Atlantide, c'est sa 11e édition. Et donc l'idée, c'est de créer des rencontres comme vous allez pouvoir le vivre là tout à l'heure dans le cadre du prix littéraire des lycéens. Mais aussi, il y a beaucoup de tables rondes. Donc je ne sais pas si vous restez tout au long de l'après-midi, mais ça démarre vraiment aujourd'hui avec des rencontres, des tables rondes ici au lieu unique. Mais l'idée, c'était aussi que ça puisse vivre à l'extérieur des murs du lieu unique. Et donc, on a aussi beaucoup de rencontres qui se déroulent dans les maisons de quartier, dans les bibliothèques, dans les librairies de la ville. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aussi aux personnes qui sont peut-être plus éloignées de notre lieu de pouvoir y avoir accès et découvrir le festival. Et donc, c'est un festival qu'on co-réalise depuis le début avec le Centre des Congrès, la cité qui est juste voisine du lieu unique. Et donc, on collabore ensemble pour mettre en place ce grand événement. Et donc tout le week-end, vous pouvez en profiter. C'est vraiment un lieu ouvert et gratuit. Alors je sais que certains sont un petit peu loin, mais pour ceux qui sont à Saint-Nazaire, peut-être vous pourrez faire des petits sauts de puce et revenir ici durant le week-end. En tout cas, n'hésitez pas à profiter le temps que vous êtes là de cet espace. Bah, merci à vous tous. Et puis, bonne rencontre. Je vois que c'est vos livres, peut-être. Ouais. Je pense qu'il y aura un temps de dédicace possible aussi qui se retrouvera à gauche de la librairie tout à l'heure. En tout cas, bonne rencontre à vous tous. Merci à vous.
Là, ça va? Vous avez fait bon voyage? Donc, on va bientôt... On attend...
Léonard
Cheminot et Wilfried Lupano est déjà à côté de moi. Alors, donc, je vous présente les lycéens qui sont là. Donc, nous avons des lycéens qui nous viennent de La Flèche.
Enchanté, La Flèche.
Voilà. C'est quoi, vous êtes en première, vous?
Ils sont.
Voilà, des premières. Nous avons là devant des lycéens qui nous viennent de Saint-Nazaire, du lycée Alex de Saint-Nazaire, qui sont dans une filière pro. Et puis, ils se sont ajoutés à eux d'autres lycéens du même lycée, mais d'une autre filière, et qui ne suivent pas exactement ce prix, mais voilà, qui se sont ajoutés. Et puis derrière, nous avons des lycéens qui nous viennent de Beaupro, dans le Maine-et-Loire,
okay.
Du lycée Julien Gracq.
Il y a déjà des lycées Julien Gracq.
Il y a un lycée Julien Gracq qui est récent, voilà, et qui est très lié à Davodo, qui a fait une grande fresque dans ce lycée, puisqu'il est de ce coin-là.
D'accord.
Voilà. Alors, je m'adresse plutôt...
Alors, attendez, avant qu'on commence, moi, j'ai déjà une première question.
Oui.
J'ai des questions. Est-ce que... Donc, tout le monde n'a pas lu ce bouquin celui-ci-là, celui dont on va beaucoup parler. Tout le monde ne l'a pas lu, ici. On est bien d'accord, hein?
Une grande partie d'entre vous l'a lu, quand même.
Certains l'ont lu, mais pas tous.
Oui.
Voilà. C'est important que je le sache pour tout ce qui est spoiler, tout ça. Voilà. Donc, si tout le monde n'a pas lu, il y a des trucs que je dis pas. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien le savoir.
OK.
Et voici devant vous l'arrivée de Léonard Cheminot. N'hésitez pas à faire une petite musique, type marche impériale. Tan, 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 tan. Voilà.
Alors, donc, là, je m'adresse à vous deux, vous ne le savez pas forcément, mais donc vous concourez pour le prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire, dont c'est la 10e édition. Et vous concourez dans la catégorie bande dessinée, dont c'est la première pour ce prix littéraire. Hein. Les 9 premières années n'étaient en compétition que des romans. Et pour la première fois, donc, des BD sont invités, ont été sélectionnés. Donc, outre la vôtre, donc la Bibliomule de Cordoue, il y a Le Grand Vide de Léa Muraviec, il y a Lettre perdue de Jim Bishop et En lutte de Fabien Toulmé. Voilà. Je peux aussi vous indiquer qui sont les romanciers qui sont en lice éventuellement, si vous lisez peut-être aussi des romans.
Ça nous arrive.
Il y a Yakuta Alikavazovic pour Comme un ciel en nous, Dimitri Bortnikov pour L'agneau des neiges, Yamen Manaï avec Bel Abîme, c'est un auteur tunisien, Mariette Navarro, Ultramarin, Gabriela Trujillo pour L'invention de Louvette et Tanguy Viel pour La fille qu'on appelle. Voilà tous les livres qui sont en lice, mais les deux catégories sont séparées. Les lycéens seront amenés à voter pour le roman qu'ils ont préféré et pour la BD qu'ils ont préféré. Il y aura donc cette année 2 lauréats. Hein, voilà.
Ça fait du boulot quand même, hein, bravo.
Ça fait du boulot pour les lycéens et ça fait aussi beaucoup de boulot pour les professeurs parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire et on est très reconnaissant de leur investissement aussi dans ce prix, y compris d'amener leurs étudiants jusqu'ici, enfin leurs lycéens jusqu'ici. Voilà. Donc on est là pour parler de ce magnifique bouquin. Allez hop, je m'autorise un
vous avez raison, allons-y franchement.
La Bibliomule de Cordoue. Alors, vous êtes Wilfried Lupano, celui qui en a écrit l'histoire, et vous, celui qui en a fait réaliser le dessin.
C'est ça.
Voilà. Alors,
et il y a un coloriste.
Il y a un coloriste, oui.
Léonard n'a pas fait les couleurs pour ne pas mourir desséché au travail. Parce que
c'est déjà un gros boulot.
Bah, c'était déjà deux ans et demi de dessin pour lui. Et si on lui avait rajouté la couleur, c'était trois ans et demi à peu près. Donc, pour sa santé mentale et physique, on a décidé de donner la couleur à quelqu'un d'autre. Donc, c'est Christophe Bouchard. Il faut le citer parce qu'il n'est pas là et il a fait un travail extraordinaire.
D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, la bibliomule de Cordoue? Alors, vous êtes déjà, un scénariste confirmé. Hein, vous avez beaucoup d'albums, enfin, de scénarios d'albums à votre actif. Des séries très connues, comme Les Vieux Fourneaux, par exemple. Comment, à chaque fois, vous initiez un nouveau projet? Est-ce que c'est toujours vous qui êtes à l'origine d'un nouveau projet qui creusait des informations, récoltait des informations et le soumettait ensuite à un dessinateur? Ou est-ce que on vous suggère, est-ce que c'est un éditeur qui vous suggère? Comment ça se passe, la fabrique de vos ouvrages, de vos scénarios?
Bon, il y a à peu près tous les cas de figure de manière générale, c'est-à-dire que ça arrive que des éditeurs suggèrent à des auteurs de travailler sur tel ou tel sujet parce qu'ils sentent que c'est porteur, ou etc. Moi, c'est pas mon cas. En général, tous mes projets viennent de moi. C'est mes propres interrogations, mes propres recherches. C'est toujours très difficile de savoir d'où ça vient. C'est à un moment donné, sur un sujet donné, c'est comme si je voyais la lumière autour avec la musique de Carmina Burana. Oui, il faut imaginer un opéra. Et je me dis, oh, mais c'est ça qu'il faut raconter comme histoire, j'en suis sûr. Cette phase du « j'en suis sûr » ne dure en général pas très longtemps. Au bout d'un moment, je me dis « mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais n'importe quoi. Pourquoi tu fais ça ? À quoi bon ?» Je passe par plein de phases différentes. Mais en tout cas, il y a un moment donné, je me sens totalement convaincu par l'impératif de raconter une histoire en particulier. Je l'écris entièrement de mon côté.
Un peu à la façon d'une nouvelle ou d'un petit roman ?
Non. Non, non, faut pas confondre les deux trucs. Alors, on commence par ça. La différence majeure entre un scénariste et un romancier, c'est que moi, je n'écris pas pour un public. J'ai que deux lecteurs. Mes deux lecteurs, c'est l'éditeur qui va lire le projet. Mon travail à moi, le truc que je fais moi au quotidien, n'aura que deux lecteurs. L'éditeur qui va le publier et le dessinateur qui va le dessiner. C'est les deux seules personnes qui vont lire mon texte. Ce texte, il n'a aucune valeur littéraire. C'est mal écrit, c'est assez chiant par passage, c'est très souvent très fastidieux, il y a des descriptions. Là, il y a une table, avec sur la table, il y a une bouteille d'eau, un livre. Ça peut être des listes. De temps en temps, je mets des images dedans pour... Si c'est dans un décor qui est connu ou des choses comme ça, je veux que le dessinateur il ait tout de suite des images en tête, donc je vais pas, je suis pas Flaubert quoi, je fais pas de style. Le style, mon style littéraire, il est dans la narration, c'est-à-dire dans le choix des scènes, quand est-ce qu'on commence une scène, quand est-ce qu'on la coupe, quand est-ce qu'on passe à la suivante, etc., et dans les dialogues. Donc le rythme de l'histoire et les dialogues, c'est à peu près tout ce qui reste de ce qu'on pourrait appeler un style littéraire chez un scénariste de bande dessinée. On pourrait en parler, on pourrait ergoter là-dessus, mais en gros, c'est ça. Moi, mon texte n'est pas novelisable. On ne pourrait pas publier mon script. Ça ressemble à un script de cinéma. Scène 1, acte 2, description du décor, description des personnages, machin dit ça, truc lui répond ça. Vous voyez, c'est pas du tout... pas du tout littérairement intéressant.
Et est-ce que c'est déjà découpé selon la pagination, selon les planches qui seront illustrées ensuite?
Oui, la plupart du temps, je fais ça. J'écris mon scénario page par page. Alors, il n'y a pas de recette absolue, il y a plein d'autres scénaristes qui vous diront qu'ils font autrement, hein. Il n'y a pas de ligne. Moi, ma méthode, c'est que je fais du page par page.
Case par case.
Mais pas du case par case. Le case par case, on va en parler, on le fait ensuite avec Léonard.
Voilà, c'est mon boulot après.
Je vous fais rapidement une petite démonstration de pourquoi je fais du page par page. Ouais, ça serait super. Parce qu'en bande dessinée, en fait, une page de gauche et une page de droite, ça n'a pas du tout la même valeur. Alors que dans un roman, on s'en fout. En bande dessinée, on s'en fout pas du tout. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez un bouquin, comme vous avez appris à lire quand vous étiez petit, vous savez que vous allez commencer votre lecture en haut à gauche, que vous allez descendre comme ça, puis ensuite vous allez reprendre votre lecture ici, et que vous allez faire ça. Mais, quand vous tournez la page, vous savez très bien que votre lecture, vous allez la recommencer là. Mais vos yeux, ils traînent par là. C'est obligé. C'est impossible que vos yeux aillent pas traîner un peu partout sur la page. Donc, s'il se passe quelque chose de vraiment très très spectaculaire ici, là, c'est très chiant, parce que vous avez encore tout ça à lire, mais vous savez déjà que ici va se passer un truc très très spectaculaire. Genre le type va se faire manger par un troll. Et vous, il a encore tout ça à vous raconter, mais vous savez déjà qu'il va se faire manger par un troll ici. C'est con. Donc, le seul endroit où il peut se faire manger par un troll, c'est en haut à gauche. Sinon, je ne peux pas vous surprendre à la lecture. Donc là, vous lisez votre truc, là, le mec vous raconte des trucs, etc. Et là, vous tournez la page, ah, il se fait manger par un troll. Et c'est la seule façon que j'ai de vous surprendre. Donc, page de gauche et page de droite, pas du tout la même valeur. Pour une autre raison également, c'est que quand vous tournez la page, je vais essayer de vous le faire à un endroit où c'est spectaculaire en termes de couleur. Là. Quand vous tournez la page, au sens propre comme au sens figuré, vous acceptez qu'on vous amène ailleurs, à un autre moment du jour, de la nuit, que ça soit même qu'on vous délocalise, qu'on ne vous parle pas des mêmes personnages. C'est une rupture dans la narration que vous acceptez, parce que, au sens propre comme au sens figuré, tourner la page, ça veut dire passer à autre chose. Donc, quand vous tournez la page, vous acceptez que tout à coup, alors que dans la case d'avant, il faisait jour, dans la case suivante, il fait nuit, et c'est même plus les mêmes personnages. Si je vous avais fait ce coup-là, entre la case 1 et la case 2, de cette page-là, vous auriez dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Vous auriez dit, mais ça n'a aucun sens, son truc. On passe d'un endroit à l'autre, on ne comprend plus rien. En fait, si on vous le fait d'une page à l'autre, vous l'acceptez. Un autre truc important, c'est que une des raisons pour lesquelles j'écris page par page, c'est que j'ai besoin de temps en temps d'amener des respirations dans mon récit, et donc je peux utiliser l'intégralité de la page pour amener un temps de pause comme ça, une réflexion qui là encore va mener à une autre scène, une rupture, une coupure. Donc j'ai besoin de savoir où sont mes pages de gauche et mes pages de droite pendant tout le récit pour faire ce genre d'effet qui envoie la caisse à fond. Voilà. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ça. Ce qui implique qu'avec Léonard, quand on se casse la tête à ensuite construire l'intérieur des pages, et qu'on se rend compte qu'on s'est planté, que je me suis planté dans mon texte, et qu'il y a une page où il y a trop de trucs, et que ça va être compliqué de raconter tout ce que j'ai voulu mettre dans la page, etc., il y a plein de moments où on s'est dit, là il faut en mettre un peu plus. On a besoin de développer. Mais si on rajoute juste une page, ben je décale toutes mes pages de gauche et mes pages de droite. Tout ce que j'avais prévu à gauche passe à droite, etc. Donc je peux rajouter que 2 pages à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on a fait passer le bouquin de...
J'ai rajouté 20 pages, oui, je pense, quelque chose comme ça.
Ouais. Par rapport au scénario initial.
Par rapport au premier storyboard, par rapport au scénario de base, ouais. En réalisant le storyboard ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'endroits, ça manquait de souffle, ça manquait de...
Et oui. Parce qu'en fait, quand on fait du dessin, on part d'une feuille blanche, et du coup, on ne sait pas à quoi ça va ressembler tant qu'on n'a pas posé un dessin sur la feuille. Quoi.
Donc vous partez d'un... Vous avez des directives, en quelque sorte,
un scénario. Page par page, le scénario est découpé, avec le descriptif de ce qui se passe. Sur la page, ouais. Les dialogues. Et après, c'est à moi de savoir en combien de strips je vais... Est-ce que je travaille en strip, déjà, donc en bande, en bande de cases sur la page, ou alors est-ce que je fais une page complète, ou est-ce que je fais une composition qui est différente. Et en fait, la composition de la page, donc la forme des cases, les agencements, la largeur des cases les unes par rapport aux autres, elle dépend de ce qu'il y a dans le scénario. C'est pour ça que c'est très important que Wilfried décrive tout ce qu'il peut dans le scénario, parce que moi, derrière, ça va me servir à mettre en scène tout ça, quoi. Par exemple, quand on a une case qui est très étroite et qui est verticale, c'est quelque chose qui peut suggérer un événement rapide qui se passe, parce qu'en fait, on lit, comme vous dites Wilfried, on lit de gauche à droite. Donc en fait, quand on passe très peu de temps sur une case, eh ben ça équivaut à un temps très, très court. Et à contrario, quand j'ai besoin de contemplation et qu'il y ait beaucoup plus de temps qui passe, il faut que je fasse une grande case horizontale sur toute la largeur de la page, de manière à ce que, comme c'est horizontal, c'est comme un paysage, c'est comme une ligne d'horizon, ça apaise, on lit plus lentement l'image.
D'accord. Et alors, les points de vue, les cadrages, d'un point de vue un peu cinématographique, c'est vous qui les déterminez ou c'est déjà dans le scénario ?
Non, c'est moi, mais ça dépend aussi de ce qui est écrit dans le scénario. Et alors là, on utilise des mécanismes qui sont connus dans le cinéma ou au théâtre, plus pour le cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, on a une infinité de possibilités. C'est-à-dire qu'on peut, on cadre les personnages soit complètement, soit de très loin, soit on peut se rapprocher du personnage, on a les personnages en pied. On peut avoir un plan qui est un plan western, ça s'appelle, donc c'est juste au-dessus du genou. On peut avoir, on peut varier le zoom autant qu'on veut.
Et après, d'ailleurs, on utilise on parle tout le temps où on place notre caméra.
Ouais, on utilise ce terme
parce que c'est plus simple, le point de vue en quelque sorte. Mais on parle tout le temps de zoom, dézoom, contre-plongée, grand angle. On utilise les mêmes termes qu'en cinéma parce que c'est plus simple. Pour nous, pour se comprendre.
Et ça utilise les mêmes mécanismes. C'est par exemple, en fait, la caméra, c'est le lecteur, en fait. Et quand on met, par exemple, quand on a des personnages qui sont vus en contre-plongée, donc c'est-à-dire qu'on est sous la ligne de regard des personnages, ça suggère au lecteur que les personnages qui sont sur la BD dominent le lecteur, en fait. Et donc ça peut être utilisé pour un personnage qui est très impressionnant, comme la case qu'on voyait tout à l'heure avec le personnage qui a une épée qui menace. En fait, on est en contre-plongée. Voilà. Ça permet en fait de suggérer la menace sur le lecteur. Et à contrario, quand on voit nos personnages en plongée, c'est-à-dire que la caméra du lecteur, donc là c'est une contre-plongée, on est en dessous, le personnage domine. Et à contrario, quand on a des personnages qu'on a besoin d'affaiblir, de montrer qu'ils sont en galère dans leur quête, et ben là on se met en plongée, c'est-à-dire qu'on est au-dessus, comme si on avait une vue de drone ou d'avion. Et les personnages sont en dessous de nous et sont écrasés par le lecteur. Et le gros avantage de la bande dessinée par rapport au cinéma, c'est qu'en fait, on fait les plans absolument qu'on veut. On a besoin de treuil, de drone, de tout ça, ou de fond vert. Voilà, on fait absolument ce qu'on veut. Donc en fait, il n'y a aucune limite à l'imagination.
Et on a un outil que le cinéma n'a pas et qu'il nous envie, naturellement. C'est que nous, au cinéma, quoi qu'il fasse, quel que soit l'endroit où ils mettent leur caméra, plongée, contre-plongée, zoom, pas zoom, ce que vous voulez, caméra embarquée, ce que vous voulez, ça peut bouger, il y a plein d'effets. Mais par contre, l'écran, c'est toujours le même. L'écran, c'est un 16/9, ça va ressembler à peu près à ce que vous avez au-dessus de la tête. C'est toujours le même rapport, 16/9. L'écran, il bouge jamais. Alors que nous, notre écran, il bouge tout. En fait, à chaque case, c'est que vous imaginez, vous regardez un film et en fait, la télé changerait tout le temps de forme en fonction des plans que vous voyez. Jusqu'à devenir totalement immense quand on fait des trucs comme je vous ai montré tout à l'heure là où le dessin prend toute la page. Ça c'est un outil qu'on adore utiliser quoi, qui est ultra pratique pour raconter une histoire. Alors nous on n'a pas la musique, c'est chouette la musique hein, pour faire passer des émotions, mais on a les cases qui bougent, ça c'est chouette.
Alors vous avez fait une expérience d'adaptation au cinéma, Les Vieux Fourneaux, c'est devenu un film.
Ouais, deux.
Deux films, quelle expérience a été pour vous justement, ce décalage, cette différence? Vous avez été déçu par rapport à l'histoire initiale que vous aviez croquer
Je me suis chargé de l'adaptation, c'est-à-dire j'ai écrit le scénario des deux films. C'est complètement un autre boulot dans le cinéma. Et l'une des différences principales, c'est que quand j'ai écrit La Bibi au Mule de Cordoue, qui se passe au Xe siècle, donc au Moyen-Âge, voilà, avant l'an 1000, des scènes assez spectaculaires, avec des flashbacks encore plus anciens, avec pas mal de monde, avec des guerres, etc. À aucun moment je me demande combien tout ça va coûter. J'ai juste à trouver un type qui sait dessiner tout ça, c'est-à-dire Léonard. Et alors qu'au cinéma c'est l'inverse, dès que vous écrivez une scène, la première question que tout le monde va se poser, c'est combien coûte cette scène, et est-ce qu'on pourrait pas faire le film sans cette scène qui coûte très cher, ou est-ce qu'on pourrait pas faire le film avec une scène qui dirait la même chose mais pour trois fois moins cher, parce qu'ils sont dans une logique perpétuelle d'économie. Ensuite vous avez tout ce qui est le casting, les égos des comédiens, les comédiens qui sont pas contents parce qu'ils trouvent qu'ils ont pas assez de scènes par rapport aux autres, qu'ils sont pas assez mis en avant, etc. Nous on n'a pas ce genre de problème avec nos personnages. Nos personnages la ferment, font ce qu'on leur dit de faire, ne se syndiquent pas, ne demandent pas une augmentation de cachet. Ils sont très chouettes, nos comédiens. Donc en fait, c'est beaucoup plus libre en termes de créativité, c'est beaucoup plus libre la bande dessinée que tous les autres arts narratifs graphiques qu'on pourrait résumer en les films d'animation, le jeu vidéo, qui sont les trois domaines dans lesquels on utilise l'image pour raconter les histoires, mais qui coûtent un fric invraisemblable par rapport à la bande dessinée. La bande dessinée, c'est le truc le moins cher. C'est jamais que des crayons et du papier. Un livre à fabriquer, c'est pas cher, je veux dire, comparé au cinéma, etc. Donc, on a aussi des éditeurs qui sont beaucoup plus détendus par rapport à la prise de risque. On a des éditeurs qui publient... Un éditeur comme Dargaud publie une centaine de bouquins par an. Il est OK pour prendre des risques assez fous sur une dizaine de ces bouquins-là, parce que ça ne représente que 10% de risque. Quand vous, dans le cinéma, quand vous avez un producteur qui fait trois films à l'année, voire un film à l'année, il est un petit peu plus stressé, vous voyez, sur le fait que ce film fonctionne ou pas. Oui.
OK, alors, on va revenons à la Bibliomule de Cordoue. Il vient de nous expliquer, ça se passe avant l'an 1000, dans l'Andalousie, disons, il n'y a pas d'iconographie, il n'y a pas d'image de cette époque-là, il n'y a pas de photo, on n'avait pas encore inventé la photo, il y a très peu de tableaux, etc. Comment vous faites pour inventer graphiquement, à partir de ce qui vous confie comme scénario, comment vous faites pour mettre des images sur une période pour laquelle on n'a pas d'image ?
Alors nous, la priorité, en fait, c'était d'être très lisible et que ce soit très fluide, et que ce soit très plausible à lire, en fait. Donc, en fait, on n'a pas inventé, on a essayé de créer un univers qui, dans son ensemble, soit cohérent et qui fonctionne. Et parce qu'effectivement, les sources documentaires qu'on a, qui viennent, qui sont parvenues jusqu'à nous, elles ne sont pas nombreuses. Les livres dont on parle, par exemple, dans la BD, il n'y en a pratiquement aucun qui est arrivé jusqu'à nous. Je crois qu'il y en a un ou deux qui sont parvenus jusqu'à nous. Mais après, nous, ce qu'on a, c'est des copies de ces livres-là. Donc, ce ne sont pas les livres originaux. Et puis, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont disparu. Mais par contre, il y a certaines choses qui sont restées et qui nous ont beaucoup aidés pour l'album. C'est les bijoux, par exemple, qui ont traversé les siècles. Donc, dans les pages de garde de l'album, qui sont rouges, hop là, comme vous voyez là, en fait, il y a un motif répétitif avec des oiseaux. Alors, on a glissé une petite mule au milieu, hein, qui n'existe pas dans la source documentaire d'origine. Mais il y a des oiseaux et des arabesques, des fleurs, tout ça. Et ça, en fait, ça vient d'une boîte à bijoux qui date de cette époque. Donc, en fait, on a pris le maximum de ressources documentaires qu'on pouvait trouver. L'architecture, par exemple, aussi, ça nous a beaucoup aidé, parce que l'architecture, on sait qu'il y a certains pans, elle est toujours là, voilà, certains pans qui sont toujours là. Et dans l'architecture, en fait, il y a des éléments de décor qu'on peut replacer après ailleurs. Et ensuite, on est parti du principe aussi que Cordoue, à cette époque-là, elle cherche en fait à être très très prestigieuse comme ville musulmane. Elle est en concurrence, entre guillemets, avec Bagdad, avec d'autres villes musulmanes. Et donc, en fait, on est parti du principe que les références graphiques pour le lecteur devaient se rapprocher de ce qu'on pouvait voir d'une aventure qui se passe à Bagdad.
Merci à Wilfried Lupano et à Léonard Cheminot d'écrire des livres qui font vivre et donnent espoir. C'était la première partie de la rencontre avec les auteurs de la Bibliomule de Cordoue dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire à Nantes au Festival Atlantide le vendredi 3 mars 2023.